Ce shiur est dédié à l'Ilui Nishmat Gaston Israël ben Sultana Dukhan Zichrono Livracha. Donc la question de Avi, comment se fait-il qu'on accepte la Kabbalah qui n'a pas été donnée avec la Torah qu'on connaît? Nous on connaît Mishnah Gemara. Un beau jour vient Rabbi Shimon Bar Yochai et dit, hop, j'ai un nouveau truc, c'est pas le Zohar. D'où ça vient? J'ai reçu du ciel. Vient Rabbi Noari, il y a 500 ans, qui dit, j'explique maintenant le Zohar, et il dévoile une Torah entière qu'on ne connaissait pas. D'où tu sais ça? Et il y a un avis qui m'a enseigné. Question de avis. On a une loi qui stipule Lo Bashamaim Hi. La Torah n'est pas dans le ciel. Ça veut dire, il y avait une fois une machloket entre Rabbi Yeshua et Rabbi Eliezer, Tanurosh et Nachnaï, un four de poterie qui a été cassé et qu'on a on l'a fait en lamelles. C'est un four en lamelles maintenant, d'accord. Il est cassé. Il était impur. Et lorsqu'un four de poterie impur est cassé, les morceaux deviennent purs. Toute l'impureté, elle part. Maintenant, on l'a recollé. On a mis de l'argile. Hop, on a recollé maintenant le four. Est-ce qu'il est pur ou est-ce qu'il est impur? Est-ce qu'on dit qu'il revient à sa situation antécédente ou pas? La roquette entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, Baba Metzia. Grande bagarre entre les deux. La majorité des Chachamim disent comme Rabbi Yoshua. Je ne sais plus si ça dit impur ou impur, peu importe. Rabbi Eliezer, qui était le Gilgul de Moshe Rabbeinu, et c'est un des plus grands rabbins que nous avons. C'est le premier rabbin qui est cité dans la Mishnah, dans le Chasse. C'est le seul qui est appelé Hagadol, le grand. Rabbi Eliezer Hagadol. Donc un grand, grand monsieur. Et Rabbi Eliezer dit, non, je ne suis pas d'accord. Rabbi Yoshua dit, mais tous les sages d'Israël sont avec moi. Alors la Torah l'a dit, on va aller après la majorité. Rabbi Atot. Rabbi Eliezer dit, si j'ai raison, que ce carrebier-là, hop, tric, se retrouve 400 mètres plus loin. Le carrebier se lève, il court, zip, il se repose là-bas. Rabbi Yoshua dit, très sympa, on n'amène pas des preuves à partir des carrebiers. Rabbi Eliezer dit, si j'ai raison, que cette rivière s'arrête, repart dans l'autre sens. La rivière s'arrête, repart dans l'autre sens, en montant. Rabbi Yoshua dit, très sympa aussi, mais on n'amène pas une preuve des rivières. Et si j'ai raison que les murs du temple, c'est-à-dire du Beth Midrash, où vous étudiez, commencent à se pencher. Et tout au coup, tout se met à se pencher. Rabbi Yoshua leur dit, halte, c'est pas votre affaire. Les sages d'Israël qui se bagarrent, c'est pas l'affaire des murs du Beth Midrash. Vous êtes là pour rester mûr, ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas. Et dès ce jour, les murs du Beth Midrash sont restés penchés. Vous ne voulez pas se pencher complètement pour faire honneur à Bioshua qui a dit, leur dit de ne pas bouger. Vous ne voulez pas se remettre à leur place pour ne pas faire un manque d'honneur à Rabbi Eliezer en n'écoutant pas. Donc ils ont fait un compromis. Rabbi Eliezer dit, ici j'ai raison qu'une voix sort du ciel et dit, Rabbi Eliezer a raison. Sort une voix du ciel et dit, Rabbi Eliezer a raison. Rabbi Yoshua a dit, la Torah nous a été donnée, elle n'est pas dans le ciel. Donc le ciel n'a pas à se mêler de cette histoire-là. Demande à Gemara, et Dieu, qu'est-ce qu'il a dit à ce moment? Il a dit, en souriant, Nitzruni bana Nitzruni, mes enfants m'ont vaincu, ils m'ont vaincu. En souriant, c'est-à-dire qu'il a accepté que la Torah maintenant, elle est dans les mains des sages d'Israël. Maintenant, si un grand sage d'Israël vient et découvre de la Torah, comment? Hachem lui a envoyé. On considère au niveau mystique que Moshe Rabbeinu, il est revenu. Il est revenu en tant qu'une partie d'âme de lui, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai, qui dévoilait le Zohar, et Rabbeinu Ari, c'est la même entité qui revient pour dévoiler des suppléments de Torah. C'est vrai que on aurait pu être étonné, mais c'est clair aussi que tous les grands sages d'Israël ont accepté tout cela comme étant en vérité totale. Il y a une secte yéménite, s'appelle les Dardaïm. Dardaïm vient du mot, c'est Dordéa, génération de connaissance, qui, eux, sont Maïmonides à 100%. Maïmonides n'a pas connu la Kabbalah. Il y en a qui disent qu'à la fin de sa vie, il a connu, mais déjà dans ses livres, était déjà diffusé, il ne pouvait pas se rétracter, il ne pouvait pas écrire là-dessus. En tout cas, dans ces livres, ils ne mentionnent pas du tout cela. Et eux refusent tout ce qui est Kabbalah. Zohar, Kabbalah, tout ça. Alors, Rabbi Nathan Bachoul avait dit que, à son avis, leur shrita n'est pas kshera. Il sort du klal d'Israël. Le Shulchan Aruch cite le Zohar. La halakha, ce que nous faisons aujourd'hui, la majorité, beaucoup de choses nous faisons comme la Kabbalah. Les Sfaradim encore plus que les Ashkenazim. C'est partie intégrante de notre Torah. Celui qui n'y croit pas, c'est presque un mouvement libéral. Comment, ta question, comment accepter ça alors que l'obachamaïmi? À mon humble avis, comme ça j'essaie de faire un chilouk sur place, j'ai pas vu ça écrit. Lorsqu'il y a une machloket entre les grands d'Israël, tout coup on fait un miracle, il y a un signe du ciel, la voix céleste n'est pas venue nous dire maintenant, dans le cas de Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer, la voix céleste vient et dit c'est lui qui a raison. Halt, on a une loi, d'après la majorité on va, point barre. Ne viens pas maintenant me changer la Torah. La Kabbalah n'est pas venue changer, elle est venue donner un supplément d'enseignement. C'est pas à venir te dire, vous vous trompez, faites différemment. S'il vient un prophète et fait un miracle, elle vous dit maintenant, changez la Torah. On l'envoie brère. Il fait un super grand miracle. Il change un iota de la Torah, raus, dehors. S'il vient, ce qui fait souvent très actuel, et il dit de façon ponctuelle, change un truc de la Torah, oui. Si c'est un grand sadique, si c'est un prophète reconnu par les grands d'Israël comme étant un sage en Torah, un homme très très saint, et qui dit maintenant que ponctuellement il faut aller contre la Torah, on va. On a eu des cas. Eliyahu au Carmel, qui a autorisé de faire un sacrifice hors du temple, ils sont carrettes. Esther Amalka, qui a dit de jeûner le jour de Pessah. Manger la matzah, c'est un sedoraita, d'accord. Elle a annulé ça. Ils ont un pouvoir, quand c'est ponctuel. Mais dire, Dieu m'a envoyé maintenant, on change quelque chose dans ta Torah, c'est plus la même. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est dehors, sur la croix. Mais attends, Rabbi Eliezer, c'est pas qu'il a voulu changer la Torah. Il y a une discussion entre sages d'Israël. Que dit la Torah à son propos? Comme ci ou comme ça? Et on est vivien et dit, lui a raison, lui a tort. On lui dit, dégage. Dégage, Eliyahu, c'est pas ton affaire. La Torah a dit, on va prendre la majorité. Mais quand Eliyahu Hanavi vient maintenant, je te dévoile des secrets que tu connais pas de la Torah. C'est pas que je te dis maintenant comment faire. Je chante dans une discussion entre Hazal, je dis, c'est lui qui a raison, c'est lui qui a tort. Ça, on veut pas. Mais quand je viens maintenant te dévoiler des choses que tu ne connais pas, un dévoilement de Torah, c'est autre chose. C'est du nouveau. C'est pas dire, il y a A, B et C, d'accord? Avant que vienne la discussion entre Rabbi Yeshua et Rabbi Eliezer, c'est A ou B. La Torah ne peut pas venir dire c'est A qui a raison ou B qui a raison. Le ciel ne peut pas venir dire c'est A ou B. La Torah a fixé, on va d'après la majorité. Ok, terminé. Ça, c'est pas le ciel qui dit. Maintenant, le ciel vient et dit, écoute, tu rajoutes maintenant, tu as A et B, il y a un nouveau truc, C. Qui n'a rien à voir avec A et B. Donc, A et B, une pomme. Voilà. Tu as A, tu as B, tu as une pomme. La pomme, c'est sympa, c'est en plus. Pourquoi pas? Oui.
Le Zohar, il n'a pas été dévoilé aussi au Sinaï. Peut-être qu'après ça s'est perdu et ça a été redévoilé par Yéhonel.
On dit que Rabbi Shlomo Bar Yochai, il a dévoilé des choses que personne n'a pu dévoiler avant lui. Il y avait le secret de la Kabbalah, c'est clair. On a un livre qui a écrit Rabbi Akiva, c'est Sefer Yetzira, qui est l'enseignement de Avraham Avinu. Donc il y avait un livre de Rabbi Yochanan ben Sefer Abayir, Rabbi Yochanan ben Akana. Il y a des livres de Kabbalah qui existaient déjà il y a 2000 ans, qui étaient certainement un enseignement oral qui a été mis par écrit. J'imagine du temps des prophètes, il y avait beaucoup, beaucoup de secrets de Kabbalah ésotériques, d'accord, qui étaient transmis oralement, c'est clair. Mais Rashbi a rajouté des choses que c'est marqué dans le Zohar, que personne d'autre n'a pu dévoiler, la Hidra Zuta, la Hidra Rabba, d'accord. Il dit maintenant je vais dévoiler des choses que personne n'a, aucune oreille, aucun n'a pu. Parce que lui venait d'un endroit spécial dans le corps du premier homme, parce que chaque âme vient d'une partie du corps du premier homme, que seul lui pouvait dévoiler cela.
Ce qui n'a pas été dévoilé au
Sinaï. Non.
Alors, ce qu'on dit que la Torah, elle a été dévoilée.
Peut-être mon cher Rabbeinu connaît, peut-être mon cher Rabbeinu lui connaissait ça, mais il n'a pas pu le dévoiler en tout cas. Mon cher Rabbeinu, peut-être il connaissait, dévoilé, non. C'est marqué que tout ce qu'un élève dans le futur Atid Lechadesh va dévoiler, va innover, mon cher Rabbeinu le connaissait, parce que mon cher, il inclut tout. Mais je ne sais pas si mon cher Rabbeinu, il a enseigné ça au Bnei Israël.
S'ils connaissaient tout Moshe, alors pourquoi ils ne connaissent pas ce qu'il y a entre
Rabbi Akiva et tout ça? Je parle déjà de ça. Le Orachaim Akadosh, il répond ça dans Haremot. Dans Parchat, Tazria. Tazria. Vaïkra, chapitre 13. Là-bas, il explique comment se fait-il que Moshe Rabbeinu, d'un côté, s'est marqué qu'il connaissait tout ce qu'un Talmid Vatik, un vieux Talmid Chacham, va innover. De l'autre côté, il y a un Midrash qui dit que lorsqu'il est monté au haut du Mont Sinaï, il a vu Dieu qui attachait des couronnes à toutes les lettres, les tagim, d'accord, les petites pointes qu'on a au-dessus des lettres. Dieu l'a dit, dans le futur, il y aura un Talmid Chacham, je me le rabbi Akiva, et il va sur chaque petite couronne, il va faire innover beaucoup de halakhot. Alors Moshe a dit, je veux aller le voir. Et surtout dans la classe de Rabbi Akiva, il ne comprend rien. Il ne comprend rien ce qui se passe du tout, du tout. À la fin, il y en a un qui dit, mais Rav, d'où vous savez tout ça? Il dit, j'ai reçu ça de Alachal Moshe Misina, ça vient de Moshe Rabbeinu. Alors, il carrera de la tour, alors il s'est calmé. Alors je ne comprends pas, il sait ou il ne sait pas? Il répond à Rachel Makadosh, il dit comme ça. Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah écrite et la loi technique, comment la pratiquer. C'est-à-dire qu'il reçoit la base et le produit fini. La halakha, comment on doit pratiquer. Le cheminement, d'où on apprend qu'on doit pratiquer ainsi dans la Torah écrite, ça il ne sait pas. Qu'on a fait Perek Merouba, tout le monde a commencé à Daf Samer Vav. Parce qu'en Bikou, vous avez fait depuis le début, ça m'a redalé de là-bas. Tu as 3 pages. On appelle ça des Yalfoutot. Dans les Shivot, les élèves n'aiment pas ça. C'est d'où on apprend ces lois dans la Torah. Tu as un mot en plus, tu as une lettre en plus, tu as un truc en plus, tu as tout l'enseignement, d'où on apprend la loi dont on va parler dans la Torah. C'est des centaines de pages dans le chasse. D'où on apprend. Que dit la loi? Ça, Moshe Rabbeinu, il savait. Mais d'où ça vient du texte? Ça, il ne savait pas. Et c'est ça, c'est le travail des Chachmei Israël, d'aller ressortir la loi écrite. Où se trouve dans la loi? La loi orale, où elle se trouve écrite dans la loi écrite? Hachem a voulu que chaque personne juive, chacun de nous, il a une partie de Torah qui doit dévoiler, que personne d'autre au monde peut dévoiler, qui appartient à sa partie de Neshama dans le... Chacun, on dit qu'il y a 600 000 lettres dans la Torah, il y en a moins, d'accord, il y en a plus, je ne sais pas, en tout cas, on a une certaine partie de Torah en nous, d'où nous provenons une certaine partie de la Torah, et c'est que nous qui pouvons l'exploiter, cette partie, plus que les autres. L'importance de bien étudier, messieurs, sinon on revient en Gilgoul. Quelqu'un qui n'a pas étudié tout ce qu'il devait étudier, il revient en Gilgoul. Et puis, faut faire vite. Oui, Jackie.
Non, à cause de... Il y a une date à Dorone, on veut beaucoup de balles en moustique par rapport à.
Oui et non.
Alors, comment eux, qui sont plus grands que nous, ils ne peuvent pas découvrir une autre partie à nous de Neshama que nous, on peut seulement découvrir, c'est pas possible.
Je vais expliquer comment ça se passe. C'est vrai que les premières Neshamot sont beaucoup plus grandes, elles sont énormes. C'est comme un arbre, c'est le tronc de l'arbre. Comme dans un bâtiment, c'est les fondations. On met les grosses pierres, des. Bon. Nous, on est les minus. On fait les finitions. Toi, tu prends un petit pinceau et tu mets un peu de couleur là. Tu fais les derniers tikkunim, les dernières réparations qu'il y a à faire. Attends, le type qui est une fondation, il a un tracteur. Un truc énorme, un D9, d'accord. Tu peux faire les finitions. C'est pas son truc. Lui, son job, c'est ça. La Vota Kedoshim, les Leviim, tout ça, c'était les fondations de l'âme Israël. Alors c'était le tronc, c'est le gros œuvre. Nous on est, on peut rien, qu'est-ce qu'on est? On est, ça pèse des centaines de kilos, on est un milligramme par rapport à des centaines de kilos. Mais le milligramme ce que tu peux faire toi, personne d'autre peut le faire. La finition.
Mais nous on étudie que les commentaires.
C'est juste.
On peut pas nous sortir un rideau.
Si, on peut. Bien sûr. Les Khidushim que jamais eux ont fait, parce qu'eux ils s'occupaient pas de ça. Tous les Khidushim qu'on fait dans le Shiur du Rav Danino, c'est tous les Khidushim d'Akim dans la Halakha, ils faisaient pas ça il y a un siècle. Ça n'existait pas. C'est contemporain à notre époque. Il y a une Torah de chaque époque, une Torah qui est nouvelle. Parce qu'on va plus dans le détail, encore plus, et en plus dans la Svara, et plus dans la finesse.
toujours un Mefarèche qui dit la même chose que nous.
Non, jamais de la vie. Rav Danino, c'est beaucoup de Chidouchim à lui. Razonich, tout cela, tout ça. C'est des livres entiers. Je sens qu'aujourd'hui tu as des livres, mais je crois que tous les jours, il y a 4-5 livres en Torah qui sortent en Israël. C'est des Chidouchim aux gens qui l'ont écrit, c'est pas des choses qui se trouvent dans d'autres endroits. Au Hachem, la Torah, elle est presque infinie. Chacun, il y a des parties à lui. Tu vois, c'est quelques années, par an, c'est à Strasbourg, ici, Yishot Yosef, à la fin, tu fais des Chidouchim à toi, c'est évident. Un Bet Midrash bli Chidouch, c'est marqué. Il n'y a pas de Bet Midrash sans Chidouch. Il n'y a pas de Bet Midrash sans Chidouch. Chidouch!
Il y en a qui n'arrivent pas à les
faire. Ils travaillent pas assez. Quand ils travaillent bien, ils pourraient y arriver.
Là, je me j'en connais, ils travaillent, ils crient le matin.
Depuis combien de temps ils travaillent?
Je sais pas, 2 ans. Peut-être.
C'est quoi 2 ans?
Non, mais...
C'est quoi 2 ans?
Si quelqu'un n'a pas de satisfaction, le pauvre, il. 2 ans, il lâche, quoi. 2 ans, il a rien.
Avant 10 ans, la satisfaction ne vient pas de faire des chidouchim à soi. Un chidouch, une compréhension. Ça, c'est un autre niveau. Tu parles d'un autre sujet. On peut parler maintenant. Dieu ne regarde pas. C'est vrai que c'est difficile parce qu'on a envie de comprendre. On a envie de savoir et de faire plus. Mais c'est marqué que c'est complètement faux. Que ce soit peu ou beaucoup, l'essentiel que ce soit les Shem Shamayim. Quand quelqu'un il a compris ce que lui peut comprendre, il a fait ce qu'il devait faire. C'est fantastique. Si ce type-là, il a un problème, c'est qu'il est jaloux, il regarde de côté, et ça le mine parce que son copain qui est arrivé après lui, il avance plus vite que lui, problème de jalousie. Et si on comprend qu'on est différent, et que tout ce qui me remplit, c'est Hachem, et pas moi par rapport à l'autre, on vit très heureux.
C'est une bonne jalousie,
des fois. C'est marqué, la jalousie qui entre le Tamir Chachamim fera qu'il y aura plus de sagesse. Et c'est un pis-aller, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est bien, mais c'est une jalousie bien canalisée, parce qu'elle amènera du bien dans le monde. Et encore, c'est vraiment bien canalisé. Mais c'est pas génial. Alors, faut comprendre qu'est-ce qu'on dit par pas jalousie. Si vraiment il est jaloux, et il est triste parce que lui n'arrive pas comme l'autre, c'est pas une bonne jalousie. Si il... C'est marqué... Mais ça, Charim, il amène une mara qui dit que dans l'âme là-bas, chaque tzaddik est brûlé par la choupa de l'autre tzaddik. Dans l'âme là-bas, il y aura des degrés. Et le fait qu'un autre qui était avec moi sur le même banc et arrive plus haut, ça va me brûler. Donc c'est très curieux parce que lui, il écrit ça, il donne plusieurs façons de penser. Il dit, il y a 3 niveaux. Celui qui fait maintenant les mitzvot, parce qu'il veut être parfait. Et que chaque fois qu'il y aura une imperfection en lui, ça lui fait mal parce que c'est contraire au désir d'Hachem d'être parfait. Ça, c'est le meilleur niveau. Et un deuxième niveau, qui est celui que je viens de citer, lui, c'est pour Olam Haba. D'accord ? Et un troisième niveau, après, si je me souviens bien, très terrestre. Il dit, comment maintenant, il y en a qui disent, moi ça va, bon, pas m'esquinter, j'aurai pas un grand lama-bas, j'aurai un petit lama-bas, ça me suffit. Il dit, c'est une paresse. Parce que déjà dans ce monde-là, est-ce que tu supportes de voir quelqu'un d'autre inférieur que toi monter tout à coup, être meilleur que toi? Ça te fait mal, t'es jaloux. Alors si t'es jaloux ici, cochez-le dans le monde de vérité. Maintenant, l'histoire de jalousie, où on est brûlé par la choupa de son prochain, c'est pas dit dans le dernier cas du jaloux méchant, d'accord? Il parle de celui qui part dans l'âme bas, c'est un meilleur niveau. Et la question se pose, il n'y a aucune différence. Si je suis jaloux ici dans ce monde, quelqu'un qui m'a dépassé, alors c'est que je suis un type bas, je suis un petit, petit, et tu me parles de l'âme bas, là-bas, les gens, les tzadikim, ils sont petits, ils sont brûlés par la choupa de leur prochain, ça leur fait mal que l'autre a plus réussi. C'est pas les tzadikim, c'est pas l'âme bas, c'est le monde des idiots dans son si. Réponse. C'est pas qu'ils sont jaloux et je lui en veux, je l'aime pas parce qu'il est plus haut que moi. Je dis dommage que j'ai pas plus investi parce que j'aurais pu arriver plus haut comme lui. C'est pas que j'en veux à lui, je l'aime beaucoup. J'en veux pas du tout. Un jaloux dans ce monde-là, il déteste la personne dont il est jaloux. Là, quand on parle de l'âme bas, il est amoureux de la personne. Il admire, il aime beaucoup. Il dit dommage que je suis pas arrivé aussi haut que lui, j'aurais pu. Pardon ?
S'en
va soi-même. Cette jalousie, ça c'est bien. Ça c'est une bonne jalousie. Très bien. Et maintenant, quelqu'un au Beth Midrash, il est jaloux parce que son copain fait plus de chidushim, et à cause de ça, il étudie plus. Ça, c'est une jalousie. C'est mieux que ce soit dans la Torah plutôt que dans les bagnoles, ou dans l'argent, ou dans les habits. Et c'est pas génial. C'est pas une bonne jalousie.
C'est un bon début.
C'est un bon début. C'est un bon début. Mais il faut comprendre, il faut travailler là-dessus. Parce que toujours, il y aura des gens mieux que nous. Et quelqu'un, quand ça le mine de voir quelqu'un de mieux que lui, il a un problème. Problème grave. Il faut comprendre que ta valeur n'est pas du tout dépendante de l'autre. Ta valeur est toi par rapport à Hachem. Hachem t'aime. Il se peut que par rapport aux outils qu'Hachem t'a donnés, tu es beaucoup plus aimé par Hachem que l'autre. On n'a rien à faire comment il est l'autre. Toi, ton but maintenant, c'est par rapport à Hachem. On n'est pas... Comprenez, quelques petites choses très importantes qui vont vous servir toute la vie. On a tous, surtout les hommes plus que les femmes, on a une concurrence. Il y a la concurrence entre les gens. Et on sent qu'on est rempli ou qu'on est valorisé quand on est meilleur que les autres. C'est faux. Jamais le regard des autres pourra me remplir. Avoir le regard des autres adulateur, admirateur ou envieux ne me remplira jamais. Parce que c'est très aléatoire. Il y en a qui t'envient, t'admirent, il y en a qui ne t'admirent pas du tout. Donc c'est tributaire des autres pour toujours. Chaque fois qu'il y aura quelqu'un qui n'est pas content, t'es pas content. Chaque fois qu'il y aura quelqu'un qui n'est pas content de toi, tu seras malheureux. C'est une galère, c'est pas possible. Il faut complètement oublier et effacer le fait que ma valeur dépend de ce que les autres vont dire. C'est un mensonge. C'est pas ça la réalité. Ce que disent les gens n'est pas la réalité. On voit bien que des gens admirent des choses tordues. Alors on va être tordu parce que les gens admirent ça. C'est tordu. Il faut oublier ça et comprendre qu'Hachem, c'est lui qui m'aime. Je suis aimé par Hachem. Je suis chéri par Hachem. Et ça déjà, ça me valorise suffisamment beaucoup pour une relation avec Hachem. Et j'ai pas besoin des autres. C'est un travail qu'il faut faire. Et quand on le fait, après qu'on l'ait fait, j'ai pas fait, ne croyez pas que je l'ai fait, j'en ai juste parlé un peu une fois avec quelqu'un. Une fois qu'on a fait ce travail-là, on est tranquille. On est tranquille, c'est une vraie avodat Hashem. Sinon, toute la vie, tac, tac, c'est tuant. C'est tuant, t'es esclave des autres. Problème de Caïn. Caïn, il voit que son sacrifice n'est pas reçu, Abel est reçu. Réaction du gosse de 2 ans. Pourquoi lui et pas moi? Mais à 60 ans aussi, des gens arrivent comme ça. À 80, un pied dans la tombe, ils sont encore comme ça. Pourquoi lui et pas moi? Il y a une petite voiture. Il y a une voiture jaune, je vois aussi une voiture jaune.
C'est un corban, c'est pour
Hachem. Hein? Ok, mais c'est la même réaction exactement. Et alors? Et alors? En quoi maintenant ta relation, Hachem dit à Caïn, en quoi ma relation entre toi, ça a à voir avec lui? En quoi? Lui, c'est lui, et toi, c'est toi. Vous n'avez rien à voir dans 2 mondes, 2 planètes, rien à voir, ça n'existe pas, oublie-le. Je racontais que j'ai fait une fois un test avec ma petite fille, je ne sais plus qu'elle avait 3 ans. Elle voulait un bonbon. Sa sœur a reçu un bonbon. Moi aussi, je veux un bonbon. Alors, comment je lui ai dit? Je lui ai dit, je lui donne 2 solutions. Ou je donne 2 bonbons à ta sœur et 1 bonbon à toi, ou rien à personne. Qu'est-ce que tu préfères? Elle n'a pas hésité, mais une fraction de seconde. Rien à personne. Tout de suite. C'est une petite fille. C'est un gosse. Mais c'est la nefesh béhémite. C'est la nefesh animale. On ne peut pas supporter que quelqu'un d'autre ait plus que moi. Ainsi, Caïn, tu es belle. Pour ça. Il y a 4 personnes dans le monde. 4 personnes. Va dans une île déserte, prends toute l'Amérique pour toi. Laisse-le tranquille. En Asie, t'en as en Amérique. Non. Que lui dit Hachem? Im tetiv set, bim lo tetiv le peta hatat rovetz. Im tetiv set. Si tu feras le bien, 7 tu monteras. Le Rachem Akadosh, il faut prendre ses paroles. Donnez-moi Bereshit, le grand Bereshit. Il dit 3-4 mots, mais c'est une leçon pour la vie. Sur ce verset, Imtetiv 7. Achen kvas dvar Hashem hi. L'intention de Dieu dans cette parole qu'il a dit à Caïn était la suivante. Trilat dvarav, au début de ce qu'il lui a dit, Odio, il lui a dit, Vesodo la date, date Elion Vesodo. C'est très beau, c'est de la poésie. Vesodo, il lui a dit, Tamal a la raison et la base pour connaître la connaissance supérieure, Vesodo est son secret. Il va lui dire maintenant un secret, Hachem à Caïn. Et vous, Homo, en lui disant, Halo Imtetiv, si tu feras le bien, Pérouge, c'est-à-dire, Imtim Imprinatatov, si tu seras dans l'aspect du bien. Kolma Secha, Shore Alhen Prinatatov, dans toutes les actions, il y aura l'aspect du bien. Ou Matsmam Hem Mitnasim, et tout seul, ils vont monter. Kakdusha, car la sainteté, c'est donc le bien. Ena Tsricha Lacharim n'a pas besoin des autres. Le bien, c'est la Kedusha. La relation avec Hachem n'a pas besoin des autres. C'est tout le contraire. Ma relation avec Hachem, elle est absolument indépendante de ma relation avec les autres. Ça veut dire comment je suis par rapport à lui et lui comment il est. Quelqu'un qui est dans le entre nous, il n'est pas avec Hachem. C'est exactement l'antithèse. Tu te branches, tu veux être dans le bien, dans la Kedusha, branche-toi avec moi. Et là, tout seul, tu vas monter. Pas pour être mieux que l'autre. C'est pour être mieux que l'autre et pas avec moi. Tu es avec l'autre. Tu es avec contre l'autre. Mais t'es en débat avec l'autre. Mets-toi avec moi. Oublie l'autre. Mais oublie complètement. Il n'existe pas. Parce que c'est pas par lui que tu es ou par lui que tu n'es pas. Tu te branches avec Hachem. Tu vas être. Tu es dans la vérité. Tu es la vérité. Tu montes. Quelqu'un est dans le Emet. Il monte. MS, comme ça t'as dit Jackie dans la cassette. MS, quoi que j'en parle. Ça fait plusieurs semaines que je me fais un cours sur le MS, mais j'arrive pas à comment. Je donne un petit mot comme ça, je sais pas quoi vous dire. C'est quoi MS? C'est quoi le MS? Quoi le MS? C'est la seule chose au monde qui est vraiment. Et des personnes, quand on dit le mot MS, ça les touche. Pourquoi ça les touche? Parce que ça touche quoi? On sent, c'est du vrai. Alors que ce qui est faux, ça, c'est attirant, c'est la poudre aux yeux, mais ça n'a pas de valeur. C'est un des piliers du monde, le Emet. Trois piliers au monde. C'est Chotamo Shekosh Boruchou, c'est la signature d'Hachem. Ça veut dire que le contact avec Hachem ne peut faire que par Emet. Quand toi, tu es dans une, pour prendre un terme savant, dialectique, c'est-à-dire des rapports avec quelqu'un, qui est mieux, tu es complètement dans le shaker. Donc il est impossible que tes actions que tu fasses réussissent. Ou si elles réussissent dans le mal, et le mal dans le mensonge à la fin il disparaît. Il disparaît, c'est un flop. Tu investis dans du flop. Investis dans du vrai. C'est dur, parce que le monde entier nous dit flop, 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 mensonge, mensonge, mensonge. Mais vous qui avez déjà fait le saut de venir à l'Eshiva, vous avez compris à quel point il y a du mensonge dans le monde. Et vous avez certainement en vous cette lumière extraordinaire, ce cadeau fantastique. C'est la présence d'Hachem dans ce monde, c'est ça, c'est Emet. Et quand quelqu'un il est sensible au Emet, attention comment il faut être sensible au Emet, ne pas mentir. C'est très dur. On vit dans un monde de mensonges, on est habitué à mentir à gauche, à droite, sans cesse, sans cesse. Quelqu'un qui ment, il perd sa sensibilité au Emet. Et il devient un menteur avec lui-même. C'est-à-dire qu'il commence dans sa vie à croire des choses mensongères comme vraies. Il croit en mensonge. Il n'est plus avec Hachem. Parce qu'il ment. Il ment avec l'autre. Donc pour lui, la vérité n'a pas tellement de poids. Donc il se ment à lui-même aussi. Et quand il sait maintenant quelque part où la vérité est le mensonge, il fait un mensonge. Pour dire non, c'est bon, ça va. Hop, il prend le mensonge. Il s'habitue à mentir. Quelqu'un qui ne peut pas mentir, qui ne peut pas mentir, il ne peut pas mentir, te l'attraper, il te dit la vérité, il ne peut pas mentir. Quand il y aura un choix après entre lui, entre sa raison qui lui dit le MET est là, mais elle est dure. Et le mensonge est là, mais il est tellement plus facile et agréable. Il peut être dans le mensonge, il est MET, il est sensible au MET. Il ne peut pas, je peux faire, c'est contraire à ce qui est vrai, à ce qui est. Je ne peux pas être dans le faux. Normalement, quand on doit dire les mots à quelqu'un, émet, vérité et faux, il y a une différence énorme au niveau du vécu de ces deux choses. Faux égale rien. Émet, c'est la seule chose qui est vraiment. Ça doit lui parler beaucoup. On est tellement dans un monde de mensonges. Je vais raconter que j'ai dit à ma fille, je lui ai donné 10 shekels, elle me trouvait. On a reçu, on nous comme les dealers qui vont dans les écoles donner du shit aux enfants de 16 ans, qui sont, je sais pas, 12 ans aujourd'hui à l'école, nous on fait la même chose aussi avec le mensonge. On nous met dans la boîte aux lettres des revues de pub et des machins et des trucs. Il n'y a rien, même pas un article, rien que la pub. Et ma fille, elle mange ses biscuits, puis elle regarde avec avidité derrière toutes les pubs, tous les machins. Je dis, chacun se trouve une pub sans mensonge. Je lui explique, je mets ça à la poubelle. C'est tout du mensonge. Mais pourquoi ? Trouve-moi une pub sans mensonge. Avec cette perruque, vous serez la plus belle femme du monde. La plus belle. Venez réaliser vos vacances de rêve pour la somme modique de l'appartement le plus beau qui est. Regarde, vérifie. T'as une pub qui est vraie. Nous, on est tellement habitués à voir ça toute la journée. On gobe. Les élections. Est-ce qu'il y a un seul candidat aux élections qui dit une chose vraie ?
Hollande.
Et les gens y croient. Ils sont tellement gays de mensonges. Je crois qu'il y a encore une chose encore plus responsabilisante. Aujourd'hui, la guerre des Arabes contre Israël, c'est une guerre de médias. Alors que nous sommes dans le droit, et c'est tellement simple, c'est évident, c'est très très simple. On était sur nos terres, les vestiges archéologiques en témoignent, l'histoire en témoigne, les livres en témoignent, on habitait ici bien 1500 ans. On a été chassés, on revient. C'est pas compliqué, d'accord ? C'est notre terre. Le Wakf là-bas, à la mosquée, ils cassent tous les vestiges du temple, ils prennent des camions, tout ça, pour pas montrer. Mais là, ok, t'as des grosses pierres, t'as un cotel, enfin, on connaît l'histoire. L'argumentation, elle est bête. Mais il y a tellement flot de non, vous occupez une terre qui n'est pas la vôtre, que même des bons juifs ne savent plus quoi répondre. C'est une guerre de mensonges, sans parler de toutes les fausses photos de pauvres enfants de Gaza, soi-disant. Violenté par les soldats israéliens. On sait que c'est des faux aujourd'hui. L'histoire de ce garçon qui a été tué, il semblerait par les habitants de Gaza eux-mêmes, d'accord, on a accusé de Tzahal, Charles Anderlin qui a fait toute cette histoire-là, d'accord, Shri. Donc il y a aujourd'hui une guerre de médias, de mensonges énorme. Quelle autre arme contre ça ? On a la vérité avec le petit drapeau. Ça n'a rien. Le mensonge, il est partout. Comment tu peux affaiblir le mensonge ? En étant vrai. En étant émette. Ça parle énormément. Quand toi, tu es vrai dans ta vie, quand tu dis un mot vrai, ça a un impact. Ça a une puissance. Si quelqu'un ne fait pas attention à sa bouche au niveau du mensonge, il perd son seul phare qui lui permet de savoir où est Hachem. Hachem, il est Emet. C'est la seule chose qui est Emet, c'est Hachem. Si maintenant il se ment, il ne sait plus où est l'Emet. Alors il sait vaguement, oui, Hachem, je crois Hachem. Mais tu ne le vis pas du tout. Tu es dans tes tripes. De mensonges, tripes. Hein. Dans tes rêves.
Après, il y a des mensonges qui nous sortent de la galère. Est-ce qu'on a le droit de mentir ?
Normalement pas. On peut mentir que si c'est pour préserver le shalom ou pour que ça amène du bien. C'est pour se préserver, nous, d'une galère, c'est un vrai mensonge. C'est intéressé. Le mensonge désintéressé, il est bien. Intéressé, il n'est pas bien. Bahou Radonai,